Il est 8h. Le journal Frédéric Mettezeau, bonjour.
Bonjour à tous. Coup de Trafalgar à Westminster. Les députés britanniques rejettent massivement l'accord sur les modalités du Brexit. Theresa May humiliée, mais pas forcément renversée. Inquiétude des entreprises britanniques, les Européens dans l'incertitude. Le grand flou sur les prochaines semaines. Nous serons à Londres dans un instant. Et à 8h20, dans le grand entretien, Nicolas, vous évoquerez le Brexit avec votre invité, la ministre des Affaires européennes.
Nathalie Loiseau, qui dialoguera également avec vous, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter.
Débonnaire mais en colère, les sénateurs de droite n'apprécient pas qu'Emmanuel Macron envisage de réformer le Sénat dans le cadre du grand débat national. L'incompréhension et le choc d'une partie de la population ivoirienne après l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, la CPI désormais très critiquée. Après les routes de la soie sur Terre, les routes du coton sur la Lune, des scientifiques chinois ont fait pousser un germe de coton dans leur module lunaire.
France Inter.
Un premier ministre britannique n'avait jamais connu de tels désaveux. 432 voix contre, 202 voix pour seulement. Les députés de Westminster ont rejeté l'accord sur les modalités du Brexit que Theresa May avait négocié avec les Européens. Un tiers des conservateurs, le parti de Madame May, ont voté contre elle. La voix blanche, la Prime Minister, a pris acte du vote.
Il est clair que le Parlement ne soutient pas cet accord. Mais le vote de ce soir ne nous dit pas non plus comment les députés compte respecter la décision qui a été prise par le peuple lors du référendum. Chaque jour qui passe fait monter l'amertume, l'incertitude et la rancœur.
Theresa May, hier soir au Parlement britannique à Westminster. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en direct de Londres. Antoine, comment t'expliquer un tel rejet et du coup, quelle réaction ce matin au Royaume-Uni ?
Ce qu'il faut regarder pour comprendre, ce sont les chiffres. Dans la défaite historique, on observe que le camp conservateur s'est divisé. 118 députés ont voté contre Theresa May, contre leur propre parti. Ça représente un tiers des élus de droite, c'est colossal. Mais ils l'ont fait pour une multitude de raisons. Certains veulent annuler le Brexit, d'autres veulent modifier le texte négocié avec Bruxelles ou demandent à l'inverse une rupture plus radicale avec l'Union européenne. Du coup, il n'y a pas de majorité au Parlement pour le plan de Theresa May. Mais il n'y a pas non plus ce matin d'autres solutions qui se dégagent. Et l'inquiétude commence à monter. Le Royaume-Uni est censé sortir de l'Union européenne dans 72 jours. Plusieurs députés ont déjà commencé à écrire un texte qui empêcherait que le pays quitte le bloc sans aucun accord. Affolement aussi chez les chefs d'entreprise. La directrice de la CBI, la principale organisation patronale, réclame un plan d'urgence pour protéger l'économie. En fait, à partir d'aujourd'hui, tout peut arriver, y compris un nouveau référendum ou l'annulation pure et simple du Brexit.
Oui, Antoine Gignot, on vous retrouve dans quelques minutes pour évoquer les suites politiques de cette crise post-Brexit. On va évoquer ce qui va se passer dans les heures à venir, mais on reste à Londres avec notre envoyée spéciale Isabelle Labéry, qui s'est rendue ce matin dans le quartier de la gare Saint-Pancras. Gare symbolique, s'il en est, car les Eurostars venus du continent arrivent à Saint-Pancras.
Comme dans un vrai brouillard londonien, impossible de dire ce matin quel scénario se dessine pour le pays. Bobby, qui a pris l'Eurostar de 6h40, s'est réveillé très tôt avec un goût amer.
On est toujours dans l'incertitude, c'est frustrant. Et je pense que l'Union européenne, elle aussi, se sent frustrée parce que les Britanniques ne sont toujours pas capables de se mettre d'accord sur un texte. Tant qu'on n'aura pas trouvé de consensus, il y aura de la frustration.
À la une des journaux tout frais que les voyageurs achètent avant de monter dans le train, les mots « défaite historique »,« humiliation totale » même, dit le Daily Telegraph. George, 24 ans, est un peu ennuyé pour Theresa May, mais surtout pour son pays.
Ouais, c'est embarrassing, je sais pas comment dire que c'est...
C'est gênant.
C'est gênant, ouais, voilà, c'est gênant. Ça montre un côté pas trop positif de l'Angleterre.
Et pourtant, Theresa May s'obstine. Si elle remporte le vote de défiance aujourd'hui, elle ira peut-être chercher un ultime soutien auprès de ses partenaires européens. Dominique Grieve, député conservateur.
Si elle veut reprendre le chemin de Bruxelles, bien sûr, mais entre-temps... la pendule continue à partir. Nous arrivons de plus en plus vers le 29 mars. Et ça, c'est une situation assez critique pour mon pays.
Un euphémisme pour évoquer ce que les milieux économiques et politiques craignent plus que tout, une sortie de l'Union sans accord. Londres, Thomas Robin, Isabelle Labéry, France Inter.
Alors, quelle réaction maintenant après ce rejet sans appel?
Alors, la République d'Irlande dit qu'elle se prépare à un Brexit dur, sans accord, et donc sans accord clair sur la frontière avec l'Irlande du Nord. La première ministre d'Écosse demande un deuxième référendum, comme Nigel Farage, l'ancien chef de file de la campagne pour le Brexit. Lui pense qu'il y aura un report du Brexit et un second référendum. À Bruxelles, le Conseil européen promet que les 27 autres membres de l'Union européenne vont rester unis, c'est à voir. Pour le chancelier autrichien de droite, il n'y aura pas de renégociation de l'accord de retrait. Pour Emmanuel Macron, la pression est plutôt du côté du Royaume-Uni, mais le président français pose plusieurs options sur la table.
Première option, ils vont vers le no deal. Donc ils disent, il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Deuxième option, ils nous disent, on va essayer d'améliorer ce qu'on peut obtenir des Européens, et on va revenir faire le vote. Puis il y a une troisième option qui est de nous dire, et à mon avis, ils vont commencer par la deuxième, puis ça finira à la troisième, on prend les paris, je prends mes risques, c'est qu'ils vont dire, au fond, on va prendre plus de temps. Et donc, ils vont demander d'avoir un plus grand délai pour renégocier quelque chose. Et donc, ils vont prendre plus de temps, peut-être qu'ils vont enjamber les élections européennes pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Ça nous dit aussi beaucoup, dans la période que nous vivons, de ce que des référendums qui paraissent sympathiques peuvent créer. C'est que c'est un référendum qui a été manipulé, manipulé de l'extérieur par beaucoup de ce qu'on appelle les infox aujourd'hui, où on a dit tout et n'importe quoi, puis après on a dit maintenant débrouillez-vous. Et bilan des courses, c'est pas vrai. On a menti aux gens, et ce qu'ils ont choisi, c'est pas possible. Bah après, bon courage pour les représentants de la nation, qui doivent mettre en œuvre un truc qui n'existe pas et l'expliquer aux gens, vous avez voté sur un truc, on vous avait menti. C'est ça ce qu'ils ont à vivre.
Ouais, on aura compris les allusions d'Emmanuel Macron à d'autres situations que le Brexit, mais on retourne à Londres avec le correspondant de France Inter, Antoine Gignot. Antoine, le Brexit est prévu le 29 mars. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Tout commence dès cet après-midi avec une motion de défiance, une motion de censure contre Theresa May.
Motion de censure est examinée au Parlement et déposée par Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, qui compte bien évincer Theresa May pour prendre sa place. Ce n'est pas du tout certain qu'il y parvienne, parce que même si les conservateurs ont torpillé hier le texte de la Première Ministre, ils ne sont pas prêts pour autant à donner les clés du 10 Downing Street aux travaillistes. Theresa May va donc probablement conserver, peut-être de justesse, son poste, mais sans avoir de réel pouvoir. En théorie, si elle survit au vote de ce soir, la Première Ministre a jusqu'à lundi pour présenter un plan B, un nouveau texte au Parlement. Mais ce sont probablement les parlementaires eux-mêmes qui risquent de prendre en charge l'agenda politique dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. Merci Antoine. Les conséquences de ce vote spectaculaire à Londres, ce sera le thème de la chronique de Pierre Aski dans une dizaine de minutes.
Il est 8h08, la suite du journal sur France Inter. Frédéric Mettezo.
Plusieurs hauts fonctionnaires français sont à Tokyo pour évoquer l'avenir du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi. Dimanche, Renault réunit son conseil d'administration pour examiner les candidats éventuels à la succession de Carlos Ghosn. Et selon l'agence Reuters, le gouvernement français ne veut plus de direction provisoire après que la justice japonaise a décidé hier de maintenir Carlos Ghosn en prison. 460 postes supprimés chez Alcatel-Lucent en France, une filiale de Nokia. Ces emplois seront supprimés cette année et l'année prochaine dans des postes administratifs. Nokia tente de se relancer avec l'arrivée de la 5G. Un gymnase, 600 maires et 7 heures de questions-réponses sans filet. Il y avait comme un air de campagne électorale hier soir à Bourtroude dans l'Eure. C'était le lancement du grand débat national par Emmanuel Macron en Normandie. Donc, pour le président, l'ISF n'est ni un tabou ni un totem, mais avant de changer quoi que ce soit, il veut en évaluer les effets. Emmanuel Macron met en garde contre un référendum d'initiative citoyenne qui reviendrait chaque matin sur ce que les parlementaires ont voté. Il envisage des aménagements sur la limitation à 80 km/h sur les nationales. En la matière, il n'y a pas de dogme. Avant cela, Emmanuel Macron avait participé au conseil municipal à Gasny, où il a déclaré, je cite, « Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent ». Fermez les guillemets. Pour Florent Guéguin, de la Fédération des acteurs de la solidarité, cette déclaration est tout à fait choquante. Mais pour Claire Hédon, présidente d'ATD Quart Monde, il y a du maladroit et du positif, si on considère l'ensemble de ce qu'il a dit. Claire Hédon.
Cette phrase sur la responsabilisation des plus pauvres, très franchement, ça ne nous aide pas à changer le regard sur les plus pauvres. Mais elle est sortie de son contexte, parce que dans cette partie-là, le président de la République dit aussi « il faut que les gens soient des acteurs, lutter contre la pauvreté, c'est un travail collectif, la solution est chez eux ». Donc il n'y a pas que ce mot de responsabiliser. Je pense qu'on a plutôt affaire à des personnes en situation de pauvreté qui sont tout à fait responsables et qu'il ne faut pas les culpabiliser. En leur disant qu'il faut les responsabiliser, en fait, on leur envoie l'idée que c'est de leur faute. Et c'est dans l'inconscient collectif. Chez un peu tout le monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'ont raté les gens pour se retrouver dans cette situation-là? Alors qu'il faudrait raisonner très différemment, je suis convaincue que c'est la société qui est responsable de cette situation-là, et en aucun cas les personnes. Aujourd'hui, les personnes en situation de précarité, elles veulent travailler, mais on manque de travail.
La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla auditionne trois personnalités haut placées cet après-midi. Le directeur de cabinet du président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Les sénateurs ont des questions à leur poser sur les passeports diplomatiques de l'ancien chef de cabinet adjoint de l'Élysée, mais aussi sur un téléphone crypté ultra sécurisé qu'il aurait gardé plusieurs semaines après son licenciement et sur un passeport de service attribué par le ministère de l'Intérieur après les violences du 1er mai. Ce sont des informations du Canard enchaîné de cette semaine. Les sénateurs de droite de cette commission promettent d'être inflexibles, surtout que ça ne va pas bien entre eux et Emmanuel Macron. Les sénateurs n'ont pas apprécié que le chef de l'État s'interroge sur le rôle de la Haute Assemblée dans sa lettre aux Français. Élodie Forêt.
Un temps plutôt bienveillant envers Emmanuel Macron, Roger Karoutchi, sénateur LR, a littéralement bondi à la lecture de la lettre.
Moi, ça a été la stupéfaction désagréable. Un président de la République, c'est le garant des institutions, c'est pas quelqu'un qui se met à couvert et qui, parce qu'il est contesté, lance comme ça en pâture tout un tas de boucs émissaires possibles en disant aux Français « Allez, régalez-vous, mais surtout ne parlez plus de moi, ne parlez pas de ma politique ».
Pour Roger Karoutchi, en ciblant le Sénat, Emmanuel Macron voudrait donc détourner le courroux populaire. Son collègue Marc-Philippe Daubresse y voit, lui, une punition liée à l'affaire Benalla et à la persévérance de la commission d'enquête sénatoriale.
Évidemment que le Sénat, ça gêne un peu dans le décor quand on assume ce rôle de contre-pouvoir. Eh bien, ça plaît pas, donc on fait une petite pitchnette, évidemment.
La droite qui avertit donc le gouvernement.
Je peux vous dire que nous ne laisserons pas toucher au Sénat. Nous ne nous laisserons pas faire, mais on le fera à la mode sénatoriale, c'est-à-dire avec courtoisie et dans le respect des institutions.
Gérard Larcher, le patron du Sénat, n'a lui en tout cas pas perdu de temps pour monter au créneau. Lundi, il a réglé ses comptes face à Emmanuel Macron et il devrait de nouveau les régler publiquement demain lors de ses vœux.
France Inter, il est 8h13, 15 morts à Nairobi. La capitale du Kenya.
C'est le dernier bilan de cette attaque d'un hôtel haut de gamme hier. Le groupe islamiste somalien des Shabab revendique cette attaque menée par un commando d'hommes armés. On ne sait pas si les terroristes ont été neutralisés, s'ils sont encore cachés dans l'hôtel ou bien s'ils se sont enfuis. Après son acquittement par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo attend de savoir si le procureur fait appel et si ce n'est pas le cas, il sortira dès aujourd'hui de sa prison près de La Haye aux Pays-Bas. L'ancien président ivoirien était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pendant la crise de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts. Acquitté donc, Laurent Gbagbo, les victimes ne s'attendaient pas à un tel verdict. Réaction d'Issiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire.
Ça a été un choc vraiment émotionnel. Cette institution internationale s'est révélée comme étant un géant à pied d'argile. Une institution incapable, n'est-ce pas, de punir les auteurs des crimes. Vraiment, c'est une situation aujourd'hui déplorable. Les victimes sont abandonnées à leur sort. Elles ne savent plus quoi faire. Elles n'attendent rien de cette Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale ne fait plus peur aux auteurs des crimes en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous déplorons. J'ai peur qu'il y ait encore plus de violence en Côte d'Ivoire parce que les auteurs des crimes sont rassurés. 2020 inquiète les victimes, inquiète les populations ivoiriennes.
Reportage en Côte d'Ivoire de notre correspondante Amandine Réau.
On a fait pousser du coton sur la Lune.
Oui, le robot chinois qui s'est posé sur la face cachée de la Lune le 3 janvier dernier. Ce petit robot a découvert qu'une petite pousse de coton avait germé à bord. Les scientifiques chinois ont publié des photos. C'est la première fois que l'on a réussi à faire pousser quelque chose sur la Lune, Sophie Becherel.
Michel Vizeau, spécialiste d'exobiologie au CNES, salue la première symbolique que viennent de réaliser les Chinois. Même si Hollywood nous a fait croire qu'on pouvait faire pousser des patates sur Mars, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Jusqu'ici, on a simplement cultivé des plantes dans les stations orbitales Mir et l'ISS. Les astronautes ont fait pousser des fleurs, des radis, de la moutarde, ils ont même mangé leurs propres feuilles de salade, mais c'était à 400 km d'altitude, dans un espace protégé des vents solaires, ce n'est pas le cas sur la Lune. Les Chinois, eux, ont recréé un mini-écosystème dans une petite serre. Ils ont mis du coton, du colza, des larves de mouches, des levures, et ils s'attendent à ce que le gaz carbonique et l'oxygène s'équilibrent. Michel Vizeau.
Il est certain que, pendant un certain temps, si jamais ça se développait, elle serait considérée comme une expérience fondatrice si elle donne les résultats attendus et qu'elle confirme la possibilité d'avoir un nano-écosystème qui fonctionne pendant quelques heures ou quelques jours. Mais entre ce qui est fait maintenant et récolter un champ de coton pour faire des vêtements ou un champ de colza pour faire de l'huile, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Pourtant, c'est bien le message de cette expérience médiatisée, dire que si on installe un jour des bases sur la Lune, on pourra y faire pousser des plantes, et ce sont les Chinois qui auront été les premiers à le démontrer.
Sophie Becherel, ça passe pour les Bleus au championnat du monde de handball. Les Bleus qualifiés pour le deuxième tour après un nul face à l'Allemagne, 25 partout hier soir. Ça ne passe pas pour McDonald's. Figurez-vous, Nicolas, que l'Union européenne a décidé que Big Mac n'était pas une marque protégée. Une chaîne irlandaise baptisée Supermac avait saisi l'Union européenne et elle a donc eu gain de cause contre le géant McDo. Une décision peut-être un peu plus lourde à digérer qu'un burger.